La plume.
La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde
de la faune sauvage Cosona.
Chaque deuxième mardi du mois à 18h,
nous vous présenterons les activités et la vie de l'association. La plume. La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cosona. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'un animal aux formes plutôt ingrates. Il a un corps ramassé, un abdomen très développé, un cou quasiment inexistant, des petits yeux, des membres courts. Sa queue est plate et recouverte d'écailles. Bien présent dans nos régions, mais méconnu, car très discret, il est souvent jugé. Vous l'avez sûrement deviné, c'est du castor d'Europe que nous allons vous parler aujourd'hui.
Souvent, lorsqu'on parle d'animaux comme ça, qui sont dans la nature, on se dit, mais ces animaux, est-ce qu'ils étaient là il y a très très longtemps? Pourquoi ils avaient disparu, s'ils ont disparu? Et puis finalement, quand on s'aperçoit qu'il y en a de nouveau, pourquoi on en a remis? Est-ce qu'il existait avant? Ce sont souvent des questions qu'on se pose. Alors pour le castor, effectivement, c'est intéressant parce que c'est un animal qui... au Moyen-Âge, existait non seulement en France, dans toute la France, mais aussi dans toute l'Europe. Et la preuve, elle est démontrée, puisqu'un petit peu partout en France, lorsqu'on regarde la géographie des cours d'eau, on trouve des cours d'eau qui s'appellent la Bièvre. Et Bièvre, c'est le nom qu'on donnait au castor au Moyen-Âge. On l'appelait Bièvre, donc beaucoup de cours d'eau ont été baptisés du nom du castor, ce qui prouve qu'effectivement, il y avait du castor... partout en France. En fait, ce castor, il a disparu de nombreuses régions, à tel point que vers la fin des années 1800, ben, il n'en restait plus en Europe que sur trois secteurs, la vallée du Rhône, une partie de l'Allemagne et puis le centre de la Russie. Ce castor, il avait disparu pourquoi ? Mais parce qu'en fait, il était... très recherché, on va dire, et pour de multiples raisons. La première, c'est qu'il avait de la fourrure. La deuxième, c'est qu'il avait une chair qui se mangeait. Et puis la troisième, c'est qu'on a modifié aussi les habitats dans lesquels il vivait. Entre 1800 et 1900, donc, l'espèce a pratiquement disparu de France. Et là aussi, il y a des choses intéressantes au niveau de l'historique. Lorsqu'on a fait des recherches, eh bien on s'est aperçu que pour les gens d'église, le castor, c'était pas un mammifère, puisque, comme on le verra tout à l'heure, c'est un mammifère. Mais en fait, il était considéré comme un poisson. Ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, les évêques recommandaient au Moyen-Âge, à leurs ouailles, de manger du castor les vendredis saints, les jours de carême. Donc là aussi, on trouve dans les archives des évêchés des mémoires où cette mention est portée, ce qui prouve là aussi qu'il y avait du castor un petit peu partout en France. En fait, le castor, ça a été le premier mammifère qui a été protégé en France en 1909 dans la vallée du Rhône, parce qu'il n'en restait plus que là. Hein. On considérait qu'à l'époque, il en restait moins d'une centaine d'individus, donc pour toute la France. Et à partir de 1909, eh bien, on a dit c'est quand même dommage qu'une espèce comme le castor disparaisse. Et à partir de là, il a été protégé sur la vallée du Rhône dans trois départements, les Bouches-du-Rhône, le Var. Mais il n'a été protégé ailleurs. Et finalement, il n'y en avait pas. Mais quand on s'est aperçu que l'espèce recommençait à coloniser un petit peu les départements environnants, c'est à partir de 1968... qu'il a été protégé sur l'ensemble de la France. Ce qui s'est passé pour ce castor aussi, c'est qu'à partir du moment où ses effectifs ont commencé à monter, ben, il y a des structures associatives le plus souvent, qui se sont dit finalement, c'est une espèce qui avait disparu un petit peu partout, pourquoi ne pas la réimplanter, donc la réintroduire et non pas l'introduire sur des habitats où il n'existait pas auparavant. Puisque s'il a disparu, en fait, eh bien, c'est à cause de l'homme. l'homme qui l'a consommé, l'homme qui l'a détruit pour sa fourrure, pour des primes, puisqu'à l'époque il a été détruit aussi pour toucher des indemnités ou des primes. Et donc à partir de là, de ce noyau de population de la vallée du Rhône, plusieurs réintroductions ont lieu en France. Et pour ce qui nous concerne, ben c'est en 1977 que le parc national des Cévennes, qui venait d'être créé depuis peu d'ailleurs, a réintroduit le castor sur la partie haute du Tarn, au-dessus de Florac. Ça, c'était en 1977. Pourquoi le Tarn ? Ben parce que d'une part, c'est une rivière qui a très peu d'activité, on va dire, humaine, en tant que culture, pas d'arbres fruitiers, très peu d'arbres cultivés en bord de rivière. Et donc c'est pour cela que ce castor a été réintroduit sur la partie haute, en particulier du Tarn. Par la suite, ce castor, bien sûr, la souche a été créée à partir d'individus qui, eux, étaient récupérés dans la vallée du Rhône. Ça, c'est un petit peu à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Ce qui s'est passé dans la vallée du Rhône, c'est que entre les siècles où le castor avait disparu et à partir du moment où l'espèce a recommencé à coloniser le Rhône, ben, il y a eu des gros aménagements, en particulier la création de canaux au bord du Rhône. Et les castors qui recolonisaient au fur et à mesure le territoire remontaient ces canaux, sortaient de ces canaux. Le problème, c'est qu'en bordure de ces canaux, il n'y avait pas d'arbres. Par contre, il y avait des vergers. Donc, dans de nombreux cas, ces castors qui remontent les canaux sortent dans les vergers et mangent des arbres fruitiers. Et ce sont ces castors qui sont quelque part les malvenus lorsqu'ils sont récupérés dans des zones où il y a des arbres fruitiers, qui étaient capturés et qui sont capturés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et qui ont été transportés sur les zones de réintroduction, que ce soit sur la partie haute de la Lozère ou un petit peu plus tard, comme nous l'avons effectué à l'époque où je m'occupais d'une association qui s'appelait Nature Aveyron. Sur la rivière qui est un affluent du Tarn qui s'appelle la Dourbie. Et ça, c'était en 1987. Alors, ce projet de réintroduction sur la Dourbie, mais il a été mené en concertation là aussi avec le parc national des Cévennes qui, lui, l'avait réintroduit sur la partie haute du Tarn, en coordination avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, puisque les individus relâchés provenaient de la vallée du Rhône, et bien sûr dans un cadre législatif strict, c'est-à-dire avec des autorisations ministérielles. Et donc, il y a eu aussi une consultation des communes riveraines. Alors, certaines étaient pour, certaines étaient contre. On en reparlera un petit peu plus loin. Mais ce qui est certain, c'est que ce castor, ces castors que nous avons introduits, en fait, nous en avons lâché 16 sur la Dourbie et sur le Tarn dans les années 1988-1989. Et finalement, cette population a fait la jonction avec les castors qui ont colonisé petit à petit le Tarn à partir de Florac. Et donc actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que le castor est très présent sur le département de l'Aveyron. Et on en parlera un petit peu plus loin.
Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la biologie de cette espèce. Donc les castors, c'est assez gros. Ça fait entre 15 et 30 kilos. Ça mesure environ 85 cm de long sans la queue. La queue, c'est 30 cm en plus. La période d'accouplement, c'est de janvier à février et la gestation dure 3 mois. Les portées sont de 1 à 3 petits, en général c'est 2. Et donc pour la formule dentaire, alors les castors ont 4 incisives. C'est des dents qui sont à croissance continue, comme les ragondins ou les lapins. Donc ils ont besoin de ronger pour s'user les dents. Et ils ont après 4 prémolaires et 12 molaires. Donc pour l'habitat, ils aiment les bois clairs, avec du chêne, du frêne, du peuplier, bouleau, et donc toujours le long des rivières, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau, au minimum 70 cm à 1 mètre de profondeur. Ce sont des grands bâtisseurs, alors ils creusent des terriers, l'entrée souvent elle est immergée, et à l'intérieur on retrouve une pièce principale et une cheminée. Après, ils construisent aussi des huttes. C'est des amas de branches qui se situent à l'entrée des terriers. Et des petits barrages, mais seulement sur les ruisseaux. Donc, des petits ruisseaux où il y a une profondeur d'eau inférieure à 70 cm, ils vont pouvoir faire de petits barrages. Mais ce n'est pas comme les castors canadiens qui construisent des ouvrages gigantesques. Voilà, donc après, ils se nourrissent différemment suivant la saison. En hiver, c'est surtout des écorces d'arbres qu'ils récupèrent. En fait, ils font pendant la belle saison des garde-manger. Et donc après, ils consomment les écorces qui sont gardées dans l'eau, dans ces garde-manger. Et l'été, ils mangent des rameaux, des feuilles d'arbres, des plantes herbacées. Et dans le département de l'Aveyron, on a pu constater qu'ils mangeaient pas mal de renoncules aquatiques. Alors, les mœurs du castor, il est crépusculaire et nocturne. Donc, il quitte son gîte diurne au coucher du soleil. Donc, il commence souvent par faire un long toilettage sur la berge. Parfois, c'est des toilettages mutuels. C'est assez sympa à observer. Et puis ensuite, ils partent en quête de nourriture. Donc, en été, l'heure de la sortie, c'est autour de 21h. Et puis là, comme les jours raccourcissent, en ce moment, on peut les voir vers 19h30. C'est une espèce qui est sociale. Ils vivent en famille. Donc, ces familles sont constituées de deux parents, plus les deux jeunes, enfin, un, deux ou trois jeunes de l'année, et deux jeunes de l'année passée. Les frères et sœurs de l'année précédente participent beaucoup à l'élevage des plus petits. Et donc, les plus grands, ceux qui ont deux ans, sont chassés à partir de deux ans. Parce que le castor est territorial, et donc il protège après son territoire des autres castors. Par contre, on a pu remarquer qu'ils arrivaient à partager avec d'autres espèces. Par exemple, avec des ragondins. On a déjà vu des ragondins et des castors sortir du même terrier. Donc bon, on ne sait pas comment ça se passe dedans, mais en tout cas, l'entrée était la même. Et le territoire des castors, en tout cas autour de chez nous, ça va de 2 à 4 km de berge, donc environ 1 à 2 km de chaque côté du terrier.
Par rapport au castor, c'est vrai que c'est à la fois un animal qui est intéressant, on va dire, pour l'environnement, parce que c'est toujours intéressant de réintroduire une espèce qui avait disparu à cause de l'homme. Ça, c'est le premier point. Il y a parfois des polémiques par rapport à son activité. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur la vallée du Rhône et dans des zones où il y a des vergers, il y a effectivement des problèmes, et on peut comprendre que les gens qui cultivent ces vergers soient malheureux, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire, si le castor a détruit leur gagne-pain. Pour ce qui en est de la région, lorsqu'on se promène le long du Tarn ou des rivières environnantes, mais finalement, on découvre très très peu de présence humaine en termes d'agriculture. Très peu d'arbres fruitiers, il n'y en a pratiquement pas. Parfois quelques plantations de peupliers, mais elles sont plutôt rares là aussi, des plantations réalisées par l'homme. Par contre, dans la mesure où on a affaire à des cours d'eau de régime torrentiel, il y a une régénérescence naturelle au niveau des arbres, des arbustes. Il y a beaucoup de sols. Les sols, ce sont des arbres qui ne sont pas exploités. Beaucoup de peupliers, dits peupliers noirs aussi, des peupliers naturels, qui poussent naturellement. Et donc, ce qu'on peut vraiment appeler dégâts, on ne peut pas dire qu'il y en a énormément, que ce soit sur la partie Tarn, la partie d'Ourbi, ou même sur les petits affluents. Il y a quelques endroits, certes, où des peupliers ont été plantés, mais le plus souvent, ils ne sont même pas exploités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très très peu d'endroits où le bois est exploité tout le long du Tarn, entre, on va dire, sa source et au moins la sortie du Tarn à la limite de l'Aveyron. Alors par contre, là aussi, il y a une petite polémique. Lorsque le castor abat un arbre, parce que ça arrive, le castor, sa préférence va vers les petits arbustes de l'ordre de 8 cm de diamètre. Mais une famille peut effectivement abattre un arbre qui peut faire jusqu'à 60, 70, 80 cm de diamètre. Alors là, effectivement, si cet arbre s'abat sur un chemin ou sur une route, ça peut poser des problèmes. Mais d'une manière générale, lorsque cet arbre est dans une zone qui n'est pas exploitée par l'homme, ben, il tombe par terre. À ce moment-là, le castor le débite, il va couper des petites branches, il va les amener à l'eau, il va les amener à ses gardes-manger, et il va petit à petit manger l'arbre. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on s'aperçut au fil des ans que lorsque des riverains trouvaient un arbre comme celui-là, un gros arbre certes, mais qui avait été abattu par le castor, ben, à ce moment-là, c'était une catastrophe. Le castor devenait un animal nuisible. Mais on s'aperçut aussi que lorsqu'il y a des crues, et Dieu sait s'il y en a souvent sur ces rivières, mais dans la plupart des cas, les arbres qui sont abattus par les crues, ils pourrissent sur place. Personne ne les ramasse, le bois pourrit. Mais là, c'est plus un dégât. Donc, effectivement, il faut faire la part des choses entre les vrais dégâts, ce qui peut arriver, mais qui est rarissime, et puis les dégâts un petit peu... des dégâts qu'on... Pas imaginaire, parce que le castor avait un arbre pour le manger. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est un dégât, mais finalement, ça n'en est pas, puisque ces arbres ne sont exploités par personne. Par contre, le castor est effectivement un aménageur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il dévore avant tout des petites pousses, les salicacées, c'est-à-dire les saules. Et alors, au fil des ans, lorsqu'il est sur un secteur qui lui convient, il va consommer ses saules à ras pratiquement du sol. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de couper régulièrement ses saules fait que ses saules vont raciner et donc ils fixent les berges. Souvent, on se plaint lorsqu'il y a des crues, que ces crues emportent une partie des berges. Mais il est évident que s'il y a des racines, s'il y a beaucoup de végétation arbustive, ben ces crues n'emporteront pas les berges aussi. Donc ça, c'est quand même, quand on dit que le castor modèle le paysage, c'est une réalité aussi. Il ne fait pas que détruire, il aménage. Et à partir de là, eh bien, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il est nuisible, est-ce qu'il est utile? Ce qui est certain, c'est qu'il représente un élément important des animaux qu'on peut trouver sur la région. Il y était avant, moi personnellement, je considère que c'était très bien qu'il puisse à nouveau faire partie de l'environnement naturel. Par rapport à ce castor, en fait, le centre de sauvegarde a entrepris depuis maintenant quelques années de recevoir donc les castors qui sont en difficulté, puisque nous accueillons non seulement des oiseaux mais aussi des mammifères.
Meu Deus.
Centre de sauvegarde donc accueille très rarement des castors. Il faut savoir qu'un mammifère qui a des difficultés ou qui est blessé, eh bien, souvent il se traîne, hein. Donc il se cache et le plus souvent il n'est jamais trouvé dans la nature et il meurt tout doucement. Mais ceci dit, en 25-30 ans, on en a quand même récupéré quelques-uns avec quelques anecdotes on va dire assez extraordinaires. Je me rappelle avoir été sur le barrage du Truel, pas très loin d'ici, c'était il y a maintenant une dizaine d'années, et en fait, lors d'une petite crue, il y a un castor qui avait sauté le barrage, et puis à mi-barrage, sur la partie du mur qui tombe plus bas, il y a une plateforme qui fait plusieurs dizaines de mètres carrés à mi-hauteur du barrage, c'est-à-dire 20 mètres plus bas que le sommet du barrage. Il est tombé là-dessus, il s'est fracassé la mâchoire, et puis pour se retrouver dans la rivière, il fallait encore qu'il saute sur 20 ou 30 mètres. Et ce castor, eh bien, il ne voulait pas sauter, visiblement. Et puis les techniciens du barrage donc, s'en sont aperçus. Et à ce moment-là, on a été le récupérer. Et ce castor, on l'a pris au centre de sauvegarde. Alors c'est très difficile de soigner des mammifères, surtout qu'un mammifère qui a une fracture de la mâchoire, finalement, à part d'intervenir de façon chirurgicale s'il y a des déplacements, là, ce n'était pas le cas. Donc, on s'est contenté de le garder, le nourrir pendant toute sa convalescence. Et puis, finalement, on a pu le relâcher. Donc, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Ce qui prouve aussi que, même si on imaginait, lorsqu'on a réintroduit ces castors, qu'ils ne pourraient jamais passer certains ouvrages comme les barrages, eh bien, à l'occasion de crues, certains peuvent effectivement passer des ouvrages très très importants. D'autres probablement finissent dans les turbines ou meurent à l'occasion de ces crues. C'est le cas surtout lorsqu'en période de reproduction, les jeunes sont naissants dans les terriers. S'il y a des crues importantes, ben ils se noient. Ça, c'est une évidence. C'est d'ailleurs ce qui limite un petit peu la présence de l'espèce et surtout sa progression. Le deuxième cas que nous avons eu, alors ça c'est beaucoup plus récent, ça date de 2 ans, ça se passe à côté de Millau sur la commune d'Aguesac ou de Compère à la limite, et sur un petit ruisseau qui se jette dans le Tarn à Aguesac qui s'appelle le Lumansonesque. Juste à côté il y a une route, et là un jour on nous appelle en nous disant « il y a un castor dans le chat à côté de la route, gros problème ». Donc on a été récupérer ce castor, effectivement. Et ce castor, eh bien, il avait été percuté par une voiture, parce qu'à un moment donné, le ruisseau fait des méandres. Et lui, il avait pris un raccourci, il voulait probablement se rendre dans le Tarn tout proche, et il s'était fait percuter par une voiture. Donc on l'a récupéré. Et comme il était blessé, il avait des plaies importantes au niveau du dos, bien sûr, on l'a amené chez un vétérinaire sur Millau. Et la surprise. Surprise, parce que lorsqu'ils ont fait des radios pour voir quels étaient les dégâts sur ce castor, eh bien, ils se sont aperçus que c'était une femelle et qu'en fait, elle attendait 2 petits. Problème, parce qu'il a fallu l'anesthésier pour la traiter. Donc, on se demandait un petit peu ce qui allait se passer par la suite. Et effectivement, Une fois qu'elle a été pansée, que les plaies ont été refermées, on l'a gardée pendant une quinzaine de jours, et là on s'est aperçu qu'elle avait perdu un petit. Donc malheureusement pour elle, la reproduction ça a été terminé pour cette année-là. Par contre, on a pu la relâcher, et on l'a relâchée dans le secteur où elle avait été trouvée. Ceci dit, on en a récupéré d'autres à plusieurs reprises, puisque on en a récupéré en tout 6, mais le plus souvent, lorsque des castors meurent, c'est parce qu'ils sont percutés par des voitures, lorsque les routes passent au bord des rivières. Mais on ne peut pas exclure aussi des cas de braconnage, on ne peut pas l'exclure, parce qu'il y a toujours des, comme je le disais tout à l'heure, des détracteurs et qui donc n'acceptent pas la présence de ce mammifère. Ce qui est certain, c'est que actuellement, ce castor, eh bien, il est présent donc sur tous les départements de l'Aveyron, puisque, comme va vous le dire Hélène, nous avons entrepris depuis quelque temps des actions et que ces actions nous permettent d'affirmer un certain nombre de choses par rapport à sa présence.
Voilà, alors du coup, depuis 2014, le centre mène des actions de recensement pour déterminer un petit peu l'évolution des populations de castors depuis qu'il a été réintroduit dans les années 80, donc autour de Millau. Au début, on a commencé sur le Tarn et puis après on a continué sur les affluents. La Dourbie, le Cernon, la Muse, la Sorgue, le Durzon, même le Dourdou et puis les petits ruisseaux du Bourg et du Lumançonnesque. Donc c'est diverses opérations qui sont menées pour déterminer cette évolution. Donc la première, c'est la prospection. C'est généralement fait par des stagiaires. Donc, en général, c'est deux stagiaires qui partent pendant une demi-journée ou une journée et ils font à pied, en fait, ils prospectent le long des rives pour essayer de trouver des indices de présence. Donc ça peut être ou des gardes-mangers ou des coulées. Alors bon, les gardes-mangers, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est des petites branches d'arbres qui sont coupées et gardées dans l'eau pour qu'elles se gardent, pour pouvoir les consommer l'hiver. Les coulées, ça va être des chemins en fait bien tracés qu'il va y avoir entre la rivière et puis l'endroit où ils vont se nourrir, par exemple, ou faire leur toilette sur les rives. Ensuite, ils creusent des terriers. Puis après, il va y avoir aussi les arbres coupés. Donc, toutes ces informations, tous ces indices de présence, après, ils sont reportés sur des cartes très précises. Voilà. Après, il y a aussi certaines zones qui sont inaccessibles à pied, qu'on va prospecter en canoë. Alors après, il y a une deuxième type d'opération qu'on fait, c'est des comptages en soirée, en fait. Donc là, on a besoin de plus de monde, on fait ça avec des bénévoles. Donc en fait, le principe, c'est que tout le monde se poste sur la rive à une centaine de mètres les uns des autres. On synchronise nos montres, et puis chaque observateur note l'heure précise de l'observation, s'il voit un castor, la direction dans laquelle il va, s'il est en train de nager. Et ça nous permet comme ça de pouvoir déterminer le nombre de familles. Parce qu'en fait, les prospections nous permettent juste de déterminer s'il y a une présence ou non de castors sur la zone. Alors que là, ça nous permet de déterminer un peu mieux le nombre de familles ou d'individus. Et aussi la taille des territoires. Alors c'est vrai que c'est difficile d'avoir des résultats précis sur le nombre d'individus. Mais on peut faire des estimations grâce à la superposition des indices de présence et puis des observations. Donc des stagiaires qui ont travaillé sur le castor depuis 4 ans, là, donc depuis 2014, il y en a eu 21 de différents niveaux d'études. On en a eu 7 en bac pro GMNF, donc gestion des milieux naturels et de la faune, et STAV, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant. Donc pour ces élèves-là, c'est des stages de qualification qui leur permettent après d'obtenir le bac. C'est des stages un petit peu longs, presque 2 mois. Donc les bacs pro, pour eux, le stage, c'était de la prospection simple. Donc en fait, ils faisaient les prospections comme je parlais en journée. Et ils notent après sur des fiches de relevé tous les indices de présence qu'ils ont pu remarquer. Donc les coulées, les gardes-mangers, les terriers, les huttes. Et puis un petit peu les principales essences d'arbres qu'ils vont rencontrer, voilà, des saules, des aulnes, des peupliers. Ensuite, on a reçu 10 élèves en BTS GPN, gestion et protection de la nature, et puis 2 en licence environnement et en master. Alors, pour les BTS, licence et master, là, bon, comme pour les bacs, ils font de la prospection avec des relevés complets sur les indices de présence. Mais après, c'est un petit peu plus poussé, puisqu'ils vont devoir faire des études comparatives d'habitat pour savoir pourquoi le castor est présent de certaines zones et pourquoi il ne l'est pas sur d'autres zones. Donc là, ils vont faire des relevés beaucoup plus complets. Par exemple, la topographie du terrain, la pente de la berge, la vitesse du courant, la profondeur de l'eau où on retrouve des castors et là où on n'en retrouve pas. Et après, un relevé complet, cette fois, de toutes les essences d'arbres et de plantes qu'on peut retrouver sur les secteurs.
Thank you.
Alors aujourd'hui, on a avec nous une invitée, donc elle s'appelle Julie, et elle est en stage sur le castor chez nous au centre de sauvegarde. Alors Julie, quelle étude tu fais déjà ?
À la sortie de mon bac, j'étais en école d'agronomie et l'an dernier, j'ai décidé de me réorienter dans le milieu de l'environnement et de faire des études de BTS en gestion et protection de la nature.
D'accord. Et du coup, c'est quoi ton projet professionnel ?
J'ai pas de projet vraiment fixe pour le moment, mais je sais que je souhaiterais pouvoir œuvrer pour la protection de la faune sauvage.
D'accord. Et pourquoi tu as choisi le centre de sauvegarde pour effectuer son stage ?
Alors, j'ai connu le centre de soins par mon service civique à la LPO Grand Causse l'année dernière. Et j'ai eu l'occasion d'y venir quelques fois au cours de mon service civique. Et j'ai souhaité pouvoir acquérir une expérience dans ce domaine. Donc j'ai décidé de faire mon stage ici.
D'accord. Et du coup, le sujet de ton stage là, par rapport au castor, ça va consister en quoi ?
Alors, je vais faire une étude du milieu en fonction de la présence et de l'absence. Faire un comparatif de quel milieu est favorable ou non au castor. Il y a un protocole donc, de relevé d'informations suivant les zones où il y a des familles de castors, donc relevé de faune et de flore, notamment sur les arbres présents, et en fonction donc voir s'il y a des présences ou pas de castors.
Et donc Julie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le protocole que tu vas suivre là pendant le stage ?
Alors je vais étudier les milieux, la granulométrie, la profondeur des cours d'eau, la présence des différentes essences d'arbres, la flore présente et la taille des arbres, la largeur. Et voilà, étudier s'il y a des castors présents.
D'accord. Et qu'est-ce que tu attends de ce stage ?
J'aimerais acquérir une expérience dans les soins aux animaux et aussi dans la mise en place et l'application d'un protocole de suivi sur le terrain.
D'accord. Et alors, est-ce que tu as déjà vu un castor ?
Alors, la première fois que j'ai vu un castor, c'était au cours d'une sortie avec le centre de soins de la faune de Millau, en juin dernier. Après un certain temps d'attente, on a fini par voir un castor nager dans l'eau, et puis d'autres sortir, faire leur toilette, etc. Et ça m'a donné envie d'approfondir le sujet.
Super, merci.
Ce qu'on peut dire par rapport au castor, là aussi, les gens nous posent souvent la question, est-ce que le castor, il a des prédateurs ? Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que autant on peut dire que lorsqu'il avait presque disparu, son principal prédateur, c'était l'homme. Mais actuellement, des prédateurs en tant qu'animaux, naturellement, il n'en a pratiquement plus. Parfois, la loutre peut consommer des jeunes castors. Ça peut arriver. Il avait un prédateur, mais qui donc a disparu actuellement de la région. C'est quand même... À l'origine, il y avait le loup. Le loup était un prédateur de castor. Et puis alors, donc, pour ce qui concerne maintenant les causes de mort des castors, il reste essentiellement donc, les crues ou la route. Par rapport à ce castor, souvent, on rencontre des gens qui nous disent « mais moi, j'en ai vu ». Alors, c'est vrai que très souvent, ce sont soit des pêcheurs, puisque le castor, on peut surtout le voir... le soir avant la tombée de la nuit, ou le matin, juste avant le lever du jour, ou parfois même avec un petit peu de jour. Souvent, ce sont les pêcheurs. L'été, il peut y avoir aussi des baigneurs qui disent avoir vu des castors donc, à la fin de la journée. Ce qui est certain, c'est que même si on ne le voit pas tout le temps, ou s'il faut le chercher pour le voir, on peut facilement déceler sa présence ou pas. Grâce aux indices de présence, on en a parlé tout à l'heure, les garde-manger, c'est-à-dire un tas de branches dans l'eau au bord de la rivière, des branches ou des arbres coupés en biseau, en pointe crayon, ça c'est des choses que si on regarde un petit peu la végétation au bord de la rivière, tout le long du Tarn ou de ses affluents, ben on en trouve régulièrement. Alors, soit ce sont des coupes fraîches, on voit que l'arbre ou la branche a été coupée il y a peu de temps, soit ce sont des coupes anciennes. On peut trouver aussi des coulées. Donc, des coulées, c'est un petit peu comme des grosses traces, puisque le castor, quand il se déplace et qu'il ramène dans l'eau les branches qu'il a coupées, eh bien, il traîne sa queue, hein, il a une queue plate. On ne l'a peut-être pas dit ou pas dit assez, mais c'est une évidence. Et donc, cette queue plate, eh bien, elle laisse une marque sur le sol et donc souvent, elle efface les traces de pas, malheureusement. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce castor, eh bien, même si on ne le voit pas, on arrive facilement à trouver tous ces indices de présence. Il y a aussi le fameux castoreum. En fait, le castor marque son territoire en mélangeant ses excréments avec de la terre. Et ça, c'est une odeur aussi caractéristique. Si jamais, en se promenant le long de la rivière, on sent des choses un petit peu bizarres, on peut éventuellement, si on cherche un petit peu, trouver des espèces de pâtés faits avec de la terre et mélangés. En général, c'est le castor qui a marqué tout simplement son territoire. En ce qui nous concerne, nous, on peut trouver aussi, en cherchant bien le long des cours d'eau, des terriers. Alors ici, le castor, effectivement, comme on l'a dit, il ne fait pas de hutte au milieu de la rivière. Sur le Tarn, par exemple, il y a toujours de l'eau, donc il n'y a pas de barrage. Mais par contre, les rives du Tarn sont régulièrement percées avec des terriers. Alors, le terrier de castor, c'est quoi ? En général, c'est un trou qui part sous la berge et qui remonte. Et quand il part sous la berge, il est immergé. Et suivant la hauteur du cours d'eau en cours d'année, eh bien, ce terrier peut ne plus être immergé. Ces trous, il faut à peu près 40 à 50 cm de diamètre. Et puis on peut donc en voir régulièrement le long du Tarn. Tout ça, ce sont des indices de présence qu'on peut constater sans pour autant être un grand naturaliste. Ce qui est certain, c'est que nous, en tant qu'association, et dans la mesure où on fait des suivis et des observations régulières, ben on organise des sorties. Ces sorties, elles sont ouvertes à tout le monde. Nul besoin d'être adhérent à l'association. Ce sont des sorties gratuites. Nous, notre seul but, c'est de faire connaître et si possible, apprécier la présence de ce petit mammifère qui a été donc réintroduit sur la région. Et pour cela, vous pouvez nous joindre à notre téléphone au centre de sauvegarde au 05 65 59 09 87. Vous pouvez aussi nous contacter sur le Facebook et puis aussi sur le site Centre Secours Faune Sauvage de Millau. Ces sorties, nous les organisons assez régulièrement. À partir du moment où il y a des volontaires pour essayer de voir le castor, on ne vous garantit pas qu'on les verra à chaque fois, mais on arrive tout de même à les observer au moins deux fois sur trois. Surtout entre le mois de juin et le mois de novembre. Après, c'est plus difficile. Mais dans ces périodes-là, le castor est souvent dehors, une bonne heure avant la tombée de la nuit. Et là, on arrive à l'observer dans des conditions optimales. Pour la petite histoire, puisque pour ce qui nous concerne, nous sommes installés à Millau, ben, il faut savoir que Millau, toute la traversée du Tarn, il y a des familles de castors installées sur le Tarn, à la traversée de Millau. Le castor ne craint pas l'homme. Et on peut donc facilement l'observer. La plupart, beaucoup de mes avoués, d'ailleurs, en voient régulièrement le long du Tarn, entre Millau et en particulier Creissel. Merci et à bientôt.
Au revoir.
La plume.
La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre Régional de Sauvegarde
de la Faune Sauvage Cossonay.
Chaque deuxième mardi du mois à 18h,
nous vous présenterons les activités et la vie de l'association. La plume. La plume.
La plume.
L'émission du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Cossonard.